Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum Dissidio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Dissidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires et 6 télévisions dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Dissidio Kalangou, notre site internet www.dissidiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum Dissidio Kalangou a pour thème les défis des campagnes agricoles au Niger. Quelle particularité pour celle de 2023? La campagne agricole d'hivernage 2023 s'installe progressivement au Niger. Son démarrage a commencé dans la deuxième décade du mois de mai. Plusieurs villages agricoles ont déjà effectué des semis. La situation phytosanitaire reste calme sur l'ensemble du pays. Quant à la situation alimentaire, elle reste dominée par la hausse des prix des produits de première nécessité, à savoir le mil, le maïs et le sorgho. Sur le plan pastoral, la production fourragère a été satisfaisante l'année dernière, mais l'accès au pâturage dans les zones confrontées à l'insécurité civile reste pratiquement impossible. D'importants déplacements des troupeaux sont aussi enregistrés en direction des zones soudaniennes et des pays côtiers. Des départs forcés sont toujours observés dans la zone des trois frontières, particulièrement depuis la région du Sahel au Burkina Faso vers le sud du Niger, du fait de la situation sécuritaire dégradée dans ces zones avec des attaques de personnes et des vols de bétail. Et quelques cas de maladies animales sont rapportés, mais aucun foyer de épidémie importante n'est signalée, rapporte le bulletin du cadre harmonisé d'identification des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle publié en mars 2023. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers une analyse et des explications les défis des campagnes agricoles au Niger, le niveau de préparation et la particularité de la campagne agro-silvopastorale 2023, mais aussi espérer obtenir des recommandations pour des meilleurs résultats dans ces deux secteurs vitaux de l'économie nigérienne que sont l'agriculture et l'élevage. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir au téléphone Yacouba Bouda, directeur général de l'agriculture au ministère de l'Agriculture. Monsieur le directeur général, bonsoir.
Bonsoir, ça va.
Moussa Ali Niali de l'association Moriben, membre de la plateforme paysanne Moussa Ali Niali, bonsoir. Et El Hadj El Mansour Mohamed, secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger, CAPAN. El Hadj El Mansour Mohamed, bonsoir.
Bonsoir.
À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Monsieur le directeur général de l'agriculture au ministère de l'Agriculture, beaucoup de villages agricoles du Niger ont déjà semé. Où en sommes-nous au sujet des préparatifs de la campagne agricole 2023 au Niger?
Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur la mission qui est la nôtre, particulièrement par rapport aux préparatifs de la campagne agricole pluviale d'hivernage 2023. Comme vous l'avez constaté dans votre introduction, vous avez dit la campagne s'installe progressivement au niveau de pratiquement toutes les régions du pays, sauf jusqu'ici la région d'Agadez, qui déjà subit une situation qui est normale dans la zone, comme c'est une situation habituelle. Sinon, la campagne s'installe habituellement comme les autres années. Et sauf que sa progression, si on compare par rapport à l'année dernière, la progression de cette année est allée un peu plus vite parce que à la première décade du mois de juin, les niveaux de quelques semis partiels qui sont effectués par-ci, par-là, va dans les 40-41%. En général, ça c'est des semis partiels, généralement c'est le mil, toujours semé en première phase, même si le village n'a pas totalement semé, mais quand même le mil est semé.
Monsieur voilà. Le directeur général, est-ce que c'est une situation normale?
Donc, au contexte de ce que nous avons vécu ces dernières années, c'est-à-dire du changement climatique, c'est une situation qui concourt à ce qui tend à se normaliser. Démarrage, définition, la situation idéale, normale que nous avons, que nous connaissons dans nos statistiques, c'est la campagne, un démarrage normal en début du mois de juin. Mais elle peut, il y a des années, où le changement et les variabilités que nous sommes en train de vivre, qu'elle s'installe même surtout dans la bande sud à partir du troisième décade du mois d'avril, comme l'année dernière, on a vécu comme ça. Et cette situation, elle est en train de rythmer avec ce qu'on connaît à l'échelle mondiale, les changements climatiques qu'on fait avec, mais on s'adapte.
Monsieur Yacouba Bouda, directeur général de l'agriculture au ministère de l'Agriculture, le démarrage de la campagne agricole intervient dans un contexte très difficile en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires. Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement nigérien pour mieux accompagner les paysans et les producteurs cette année?
En tout cas, les dispositions que nous avons l'habitude de prendre sont déjà prises. Dans la sous-région, nous avons le meilleur dispositif de prévention de gestion des crises et catastrophes alimentaires. Et en ce genre de situation de soudure, il y a toujours un dispositif qui est pris par un plan d'intervention, un plan de réponse à toutes ces genres de situations. Et donc, pour vous dire que nous n'avons aucune surprise, toutes les mesures qu'il faut prendre sont déjà prises et l'accès est déjà sur le terrain. On ne peut pas sans savoir que d'abord, la mise en place d'important tonnage pour vendre à des prix modérés est déjà amorcée et tout le monde s'est visualisé dans les différents canaux d'information, que ce soit la télévision privée, nationale, la télé, les radios. Les opérations de vente à prix modérés ont déjà commencé. Les pays du DGC pour les ménages très très généraux qui n'arrivent pas à s'en procurer a déjà commencé. Les semences, nous avons déjà planifié en fonction sur la base du plan de réponse qui a prévu de mettre en place au moins 10 000 tonnes. Nous avons déjà placé ces semences-là, ils sont déjà sur le terrain, c'est vérifiable. Pour chaque jour, nous faisons la situation. Aujourd'hui, où je vous parle, on est autour de 88-90% du placement de semences dans les communes. Au niveau des communes, je vous dis pas au niveau région ou département, dans les communes, et c'est une situation qui est vérifiable, si celui qui veut, il peut aller vérifier ça. Donc, je peux vous dire que ces aspects-là, des questions d'atténuation des prix de l'arrêt alimentaire, on a pris devant les deux ans. Appuyer les ménages vulnérables qui n'ont pas accès aux entrants, précisément des semences, on a déjà pris des dispositions. L'État a vraiment fait le plein. Ça, je vous dis, ça, c'est des situations comme ce qu'on a eu à faire l'année dernière. C'est autour de 10 000 tonnes, parce que c'est 9 360 tonnes qu'on a placées. Et vraiment, on a atteint la cible à plus de 87% de déprévision des semences des ménages vulnérables. Et que aucun coin nous a accusé. Et la question, on n'a pas placé les semences à temps, parce que la période idéale de semis, nous sommes, c'est dans le mois de juin, et nous sommes déjà sur le terrain. L'année dernière, c'était la même chose. Même au niveau sous-régional, le pays est apprécié. Si nous avons atteint le deux chiffres de croissance, c'est l'un des aspects du secteur agricole qui a donné ce point-là au Niger. Et cela a été plusieurs fois, dans plusieurs rencontres régionales et internationales, dit que le fait que nous avons placé des entrants à temps, c'est un facteur vraiment fondamental, capital, qui a conduit à ce résultat d'approvisionnement.
Monsieur le directeur général de l'agriculture, quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour véritablement lutter contre les ennemis de culture?
Ça, je vous dis déjà la quantité que nous avons prévue pour cette campagne-là des produits phytosanitaire est déjà acquis et disponible. Et déjà, les quantités sont placées en région. Notre avion pour le traitement aérien est disponible, il a été testé, tout le monde l'avait vu en vol. Donc, vous voyez, par rapport à cela, sincèrement, l'essentiel des prises de disposition est déjà fait.
Monsieur le directeur général de l'agriculture, le riz est aussi produit au Niger aujourd'hui. Quelle est la situation des aménagements hydro-agricoles au Niger?
Le riz constitue une préoccupation majeure au centre de notre politique nationale et stratégie nationale de développement agricole, de sécurité alimentaire, de développement agricole durable, SANDAT. Donc, pour vous dire que la filière est au centre et déjà, là, il y a un engagement fort, il y a une volonté politique autour de la filière. Donc, je pense pour cela, là aussi, on est vraiment très actif et l'essentiel des dispositifs sont en train d'être vraiment pris pour faire face à ces déficits chroniques et à ces devises qui quittent le pays. C'est des milliards qui quittent le pays chaque année pour les implantations. Donc, à travers cette stratégie et ces programmes opérationnels de la stratégie, on espère d'ici vraiment quelques années, on va atteindre tous ces effets-là.
Merci beaucoup, monsieur le directeur général de l'agriculture. Nous allons revenir vers vous. Le temps de donner la parole à Moussa Ali Nyali de l'association Mouriban, membre de la plateforme paysanne. Moussa Ali Nyali, une délégation de la plateforme paysanne avait été reçue en audience par le président de la République, Bazoum Mohamed, la semaine dernière à la présidence. Au cours de cette rencontre, le président de la plateforme paysanne avait exhorté le président de la République, Bazoum Mohamed, à travailler dans le sens de rendre disponibles et accessibles les engrais au profit des producteurs agricoles qui se préparent à entamer la campagne agricole. Le chef de l'État a-t-il pris des engagements lors de cette rencontre, Moussa Ali Nyali?
Bonsoir, chers auditeurs et téléspectateurs. Effectivement, comme vous l'avez notifié, au niveau donc de la plateforme, il y a effectivement eu la rencontre entre les OP et le président de la République.
Les OP, ça veut dire les organisations paysannes.
Les fêtières, toutes les organisations de du secteur agricole, donc ont eu à rencontrer, et ce qui est une bonne initiative, parce que c'est pas jeter des fleurs, mais depuis l'arrivée donc du président Bazoum à la tête du pays, vraiment les choses ont bougé, parce que il n'y a pas mieux à prendre des décisions que le président de la République. Et s'il est au courant de, il y a des échanges directs entre lui et les acteurs de la base, je pense qu'il y a une oreille attentive. L'engagement, c'est que déjà au niveau donc de la réunion de Cotonou et de Lomé, au niveau de la CDAO sur cette problématique de l'engrais, le président a fait des plaidoyers. Il a beaucoup insisté et même des rencontres ont lieu avec de plaidoyers à l'endroit donc de Dangote, qui est aussi un grand homme d'affaires nigérien, donc sur cette histoire donc d'engrais. Et le président a fait des plaidoyers là-bas pour que Dangote puisse aider au mieux que ce qu'il peut faire, parce que le président a dit que si Dangote arrive à mettre l'engrais disponible et accessible au Niger, c'est tout ce que il lui demande. Et Dangote a pris les engagements. Et rien que cette semaine, on a eu une rencontre avec un des hommes d'affaires du Niger qui est dans le domaine de l'importation donc des engrais. La plateforme avec on a négocié et on est en train de partir, et même avec le représentant de la réforme des engrais. Donc tous les acteurs se sont réunis pour discuter directement donc avec l'importateur qui est nigérien, ce qui est une bonne chose parce qu'avant, on donnait donc le marché.
Mais cette négociation ne devrait pas être faite bien avant l'installation de la campagne agricole?
Oui, vous savez, déjà quelque chose est en train donc d'être fait, mais c'est la suite du processus. Parce que comme a dit le DG, il y a eu des choses qui se sont passées, mais c'est la suite logique de la réunion donc de Lomé. Le feedback de ce qui s'est passé là-bas pour les acteurs, les gros consommateurs, donc les vrais concernés. Donc c'est dans la logique donc de cette suite à prendre. Et l'engagement a été, lui, il a déjà demandé à toutes les structures du monde rural, du monde paysan, donc d'exprimer leurs besoins. Qu'on attend, toutes les structures doivent même transmettre à la plateforme leurs besoins afin que cela soit consolidé et via une convention à long terme, donc gagnant-gagnant. Parce que lui, le président lui a instruit une fois de plus que ok, tout ce qui est retombé, c'est pas pour les profits personnels, mais cette réduction doit être répercutée au niveau donc du paysan, du producteur qui est à la base. Et Inch'Allah, le lundi, toutes les structures vont transmettre donc leurs besoins en engrais, parce que lui, il est sur l'urée. Donc, on va transmettre les besoins et consolider. Et maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est de faire des achats groupés, négocier. Parce que quand on est ensemble, on est plus fort qu'au lieu que chacun aille négocier par-ci, par-là. On va faire donc tout ensemble et on va faire un mouvement d'ensemble pour être très fort. Et je pense que cela est une bonne chose et c'est au mettre au crédit donc du président de la République.
Moussa Ali Niali, la santé des sols a été au cœur aussi des préoccupations des autorités lors de la rencontre de Lomé. Et qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de ces sols?
Effectivement, cela a été débattu au niveau donc de Lomé. Mais ce qu'il y a à faire, parce que rien que ce matin, à travers les informations de la RFI, les agences internationales de la météorologie prévoient donc que jusqu'à l'an 2100, une évolution et une croissance de la pluviométrie au niveau donc du Sahel. Donc il faut s'attendre à de grandes pluies. La preuve en est que récemment on a eu des pluies de 80 mm dans la zone de Saï et puis de Namaru. C'est des choses qu'il faut s'attendre à ça. Et pour ça, je pense qu'il faut déjà identifier les zones inondables pour éviter donc les risques, pour minimiser les risques de catastrophe et les périmètres risicoles. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé donc du riz,
les aménagements hydro-agricoles,
parce que l'objectif du pays, c'est d'arrêter
l'importation
du riz à l'horizon 2025-2030. Donc, en marge de ça, il faut donc se préparer donc, dans le traitement donc, des courries, le choix donc, des sites, des aménagements. Donc, tout ça là, vraiment que les gens puissent se prendre à temps pour éviter non seulement d'habiter dans ces zones inondables, mais aussi de pratiquer l'agriculture dans ces zones inondables. Parce que quand il y a inondation, le déplacement des populations, le recasement, l'aide d'urgence, donc ça aussi a un poids, il faut éviter tout ça là. Donc vraiment, le président de la République lui-même, il a reconnu qu'aucun pays au monde ne s'est développé sans l'agriculture. Donc vraiment, ça le tient à cœur. Et nous, ce qui nous réconforte au niveau donc, de la plateforme, ce que nous arrivons à lui dire face à face, il nous écoute, il n'y a pas d'intermédiaire. Nous arrivons donc à lui expliquer nos doléances et à chaque fois, il essaie donc de faire de son mieux.
C'est encourageant selon vous.
C'est encourageant parce que même la dernière fois que vous vous rappelez, lors de ses vacances, lui-même, il se met au travail donc, de la terre et c'est encourageant. Quand on voit le président de la République au champ, on se dit que bien, étant le président, il est au champ, pourquoi pas les autres aussi? Et vraiment, ça entraîne des changements de mentalité.
Moussa Ali Niali, quels sont les défis du Niger pour une bonne préparation de la campagne agro-sylvopastorale 2023 au Niger?
Comme défi, c'est de continuer à mettre les intrants, tant les engrais que les semences, à temps et au niveau donc de la base, les acheminer donc à temps et avoir donc des bonnes données, parce que rien ne peut se faire sans des données fiables et des données collectées. Donc associer aussi le secteur des fêtières, le secteur privé dans ces structurations. L'autre défi aussi, c'est les ressources humaines. On constate qu'au niveau donc vraiment il y a une insuffisance donc des ressources humaines au niveau donc de l'encadrement, parce que l'État fait de son mieux à travers donc la mise en place des dispositifs, mais c'est les ressources humaines et les ressources financières qui ne suivent pas. Donc on a des bons textes, on a des bonnes lois, mais leur application des fois ça ne suit pas. Donc il faut mettre à disposition des services de l'agriculture, des ressources humaines et logistiques adéquates. Quand vous visitez les services de l'agriculture, rares sont les bureaux qui ont plus de 2 agents. Généralement, c'est le seul directeur, qui est statisticien, qui est chauffeur. Donc il y a les rapports par-ci, par-là. Donc vraiment, c'est un poids. Et les jeunes diplômés qui attendent. Donc si on peut vraiment faire le recrutement massif au niveau donc, de l'agriculture, ça sera vraiment un plus. Faire des magasins de stockage en fonction donc, des filières. Cela se fait. Les magasins de stockage de l'oignon et autres produits périssables. Donc vraiment, il y a des efforts qui nécessitent d'être menés. Pour aller vers l'autosuffisance, il faut aussi mettre un accent sur la préparation aussi précoce des cultures de contre-saison. 1 mois ou 2 mois avant chaque saison, il faut que tout soit sur place et les populations aussi doivent être sensibilisées sur l'art donc d'utilisation donc des équipements et puis d'utilisation donc de ces semences par la vulgarisation.
Oui, à travers cela, quelle est la contribution de la plateforme paysanne en termes d'encadrement, appui, conseil aux paysans et autres producteurs nigériens?
Au niveau donc de la plateforme, dans toutes les fêtières, que ce soit Moriben, FCM Nia, Anfo, Ficopri, Fenodado, pour ceux qui sont donc de l'élevage, Dr. Alej Mansour va en parler. Mm-hmm. Donc, on a des techniciens qui font la vulgarisation et l'encadrement, et avec des partenaires aussi, notamment l'ICRISAT, l'INRAN, pour la vulgarisation donc des nouvelles variétés précoces adaptées au phénomène du changement climatique. et aussi on fait des encadrements, notamment donc les suivis sur le terrain. Il y a même de nos producteurs, membres qui font la production de semences certifiées en collaboration avec les institutions de recherche et les directions régionales de l'agriculture. Donc tout ça là, c'est pour booster. Quand le producteur produit lui-même sa semence, là c'est une semence qu'il a plus tendance à adapter qu'une semence venue d'ailleurs. Il y a les suivis des ménages, il y a les enquêtes que les structures membres de la plateforme organisent, il y a des démonstrations de semences, il y a des démonstrations donc à travers plusieurs techniques de vulgarisation, tant en ce qui concerne les semences, les techniques de culture, la production des biofertilisants, des biopesticides et même
les champs
de démonstration, les mini sachets qui sont expérimentés au niveau donc des membres de la plateforme et qui apportent leurs fruits.
Merci beaucoup Moussa Ali Niali, Alhaji Al-Mansour Mohamed. Au jour d'aujourd'hui, quelle est la situation du pastoralisme au Niger?
La situation du pastoralisme ou de la campagne qui s'installe, je pense que la campagne elle-même hivernale s'installe progressivement bien. Il y a eu des pluies dans le mois de mai. Récemment, le 11, 12, 13, il y a eu de grandes pluies dans la région, dans la zone d'Ayoro, Iwerinates, Banklare, Tégué. Quand tu prends la zone d'Adrebisnet, Abalak, tu vas à Chantabaraden, dans la zone d'Ingal et le nord d'Akoro. Il y a eu des pluies et il y a eu quelques mares également qui sont là. Mais le problème pour les éleveurs demeure encore parce que l'herbe encore n'a pas encore poussé. Et c'est pourquoi vous allez trouver beaucoup d'éleveurs qui sont autour de la réserve de Gadebeji. Des éleveurs qui sont
dans
d'Akoro,
le département du Dakoro.
La grande réserve, effectivement, vous allez trouver beaucoup d'éleveurs qui profitent, qui rentrent et qui sortent. Vous allez voir des éleveurs qui sont à la porte, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas question d'aller, par exemple, à Ingal. Ils sont là dans la zone de Tawa, entre Gadebeji, Abalak, etc. Vous allez trouver des éleveurs qui attendent. Maintenant, dans la région de Tlaberi, vous allez voir beaucoup d'éleveurs dans le département d'Ayuru, entre Banklare et Tera, qui sont autour des grandes agglomérations du fait de l'insécurité. Vous savez que ils font régulièrement face à l'insécurité et régulièrement ces éleveurs pasteurs-là sont en tout cas affectés par cette insécurité-là. Pas très longtemps dans la région, dans le département de Banklare, pas très loin, il y a eu un éleveur qui a été enlevé par des bandits armés. C'est pour vous dire que pour l'instant, la campagne, nous sommes en train de risquer d'avoir des pluies un peu partout, effectivement. Les besoins pour l'alimentation du bétail, elle est là. Malheureusement, nous constatons que la vente a pris modéré d'aliments bétail n'a pas commencé.
Vous avez cherché à savoir pourquoi?
Elle n'a pas commencé. Nous avons les informations de nos structures. Quelque part, l'aliment bétail est là, comme à Ayuru. On vient de me le dire, dans certaines zones, l'aliment bétail est là, mais la distribution n'a pas commencé jusqu'en juin. Je pense qu'il y a un grand retard. Je ne sais pas les raisons du retard.
Ça va impacter sur le...
Bien sûr. Nous sommes aujourd'hui le 15 juin. La vente d'aliments bétail n'a pas commencé. Et les éleveurs sont en tout cas en nombre besoin pour en tout cas passer cette période-là. Je ne sais pas les raisons de ce retard. Je ne saurais vous le dire. Mais tout ce que je pense, c'est que la vente aliments pour les hommes a commencé bien avant.
La vente a pris modérée.
Les céréales pour les hommes a commencé très bien avant, mais celle d'aliments pour bétail a traîné et les raisons pour lesquelles elle a traîné, je ne saurais vous le dire.
Le terme d'échange a-t-il connu une amélioration suite à l'avènement de la fête du Tabaski édition 2023? Est-ce que les éleveurs tirent le maximum de profit?
Les éleveurs, n'est-ce pas, de mon point de vue, ils ne tirent pas grand profit, j'allais dire. C'est ceux qui tirent. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le sac du mil tourne autour de 28, 30, etc. Et c'est ça qui, tant que le mil grimpe, l'éleveur, lui, a des soucis. Et c'est ça qui nous prouve qu'il y a encore des problèmes. C'est pourquoi nous voulons que l'intervention de l'État en pareille circonstance, pour permettre à l'éleveur qui fait face à un cheptel sous-alimenté, qu'on puisse l'aider afin de passer cette période-là. Ceux qui profitent effectivement des animaux par rapport au prix, c'est peut-être les emboucheurs, c'est peut-être les commerçants éleveurs, disons. Il faut faire la différence. Il y a peut-être des commerçants éleveurs qui embouchent, qui entraînent. Et là, ils profitent. Mais les éleveurs mobiles...
Les revendeurs d'animaux.
Les revendeurs, voilà. Mais les éleveurs mobiles, en pareil moment, quand tu vas dans le département de Chantabaraden, le nord de Chantabaraden, quand tu vas dans la zone d'Ingal ou dans le département de Bankalerokt, vous allez comprendre que en pareille période, ils sont quand même en difficulté et ils ont besoin quand même de l'assistance par rapport à l'alimentation de leur cheptel.
Oui, mais quelles sont les dispositions prises par le gouvernement nigérien pour mieux accompagner les pasteurs et leur cheptel?
Oui, l'accompagnement du gouvernement du Niger de tout temps, c'est celui qui consiste à mettre en place ces dispositifs-là.
À temps.
À temps, bien sûr, pour qu'au moment venu, que les éleveurs puissent y profiter. J'ai dit,
il y a même la construction des points d'eau.
Oui, ça c'est dans le cadre de la sécurisation ou de la mobilité, de l'accès aux ressources. Effectivement, si vous parlez de cet accès, de ce point-là, le gouvernement fait à travers des progrès, des projets comme les PRAPS, n'est-ce pas, fait des actions de sécurisation autres. Mais là, il faut le comprendre aujourd'hui que on fait face à la problématique de l'accaparement des terres pastorales.
Ah, le phénomène existe.
Le phénomène existe, il existe parce que si aujourd'hui, sous prétexte de l'agriculture, sous prétexte qu'on veut aménager l'agriculture, de l'agriculture végétale, on s'approprie des grands domaines réservés au pastoralisme, il y a problème. Il y a un grand problème.
Oui, est-ce que des actions sont en train d'être engagées?
Oui, oui, effectivement, oui. Nous avons, les actions pastorales, en tout cas, ont même saisi le Premier ministre par rapport au cas d'accaparement des terres en zone pastorale. Vous savez qu'il y a des espaces pastoraux en zone agricole, mais il y a la grande zone pastorale. Malheureusement, les gens souvent pensent que dans les grandes zones agricoles comme Tawa, département ou Maradou, Zander, il n'y a pas des espaces réservés. Il y a des espaces bien réservés au pastoralisme, des aires de pâturage, des couloirs de passage. Moi, j'en ai vu des couloirs de passage, un couloir de passage international. C'est à Kalfou. C'est mai, en août. Je l'ai vu, c'est devant moi. J'ai vu ça. Donc, il y a un problème de sécurisation des espaces, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord que nous, au niveau de l'élevage, nous faisons face à l'alimentation des bêtes. Nous avons plus de 50 millions de têtes, il faut les nourrir, n'est-ce pas?
Oui,
c'est
oui,
vrai?
Oui, mais est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises dans le cadre de la lutte contre le vol des bétails dans les zones d'insécurité?
La lutte qu'il y a, c'est celle qui est faite pour sécuriser les situations de façon générale. Les patrouilles départementales, les patrouilles de FDS, etc., qui se fait. Et je me réjouis quand même ce dernier temps, que ce soit dans la région de Tawa ou dans le département de la région de Tlaberi, où en lien avec la frontière, ce phénomène est en train de diminuer. Mais il ne faut pas accélérer. Ce phénomène de vol de bétail n'est pas seulement lié aux criminels, j'allais dire au terrorisme, aux terroristes. Il y a des acteurs nouveaux, des grands voleurs nouveaux qui profitent de la situation et qui volent.
Dans la région de Maradi.
La région de Maradi, on a exporté une autre forme, on a importé une autre forme de vol ou autre. D'abord, il y a cette question des rançons, n'est-ce pas? On cible une personne, on la cache, on demande de l'argent. Ou on vient, honnêtement, on ramasse les animaux. C'est des pratiques courantes dans certains pays voisins
qui se transportent
sur notre territoire. Et quand vous avez parlé de Maradi, Guidam Rumji, Mad Rumfa, ce sont des zones frontalières, n'est-ce pas? Les bandits sont de l'autre côté et ils ont leurs complices dans les villages. Toutes les opérations qu'ils font, c'est en lien avec leurs complices. Donc il y a à ce niveau une nécessité pour l'État, pour le pouvoir public, de revoir la stratégie sécuritaire de ces pays-là. Quand des gens viennent notamment à moto pour enlever des gens, quand des gens viennent à moto à 19h, 20h pour mettre tout un village en sac, visiblement, il faut revoir la stratégie sécuritaire.
Merci beaucoup à tous. On observe une courte pause. Elhaj Al-Mansour Mohamed, quelle est la situation sanitaire du cheptel sur le terrain à présent?
La situation sanitaire, en tout cas selon les spécialistes, elle est calme. Et même les échanges que nous avons avec nos répondants au niveau régional, il n'y a pas cas de maladie, en tout cas particulière, qui a été relevé. Ce qu'il y a, c'est sur quoi les éleveurs insistent aujourd'hui le 15 juin, c'est l'appui en aliments bétail. C'est ça, là, aujourd'hui, la préoccupation des éleveurs. Nous sommes 15 juin et nous n'avons pas encore connaissance d'un point de vente pour l'aliment bétail.
Oui, mais Alhaj Al-Mansour Mohamed, quelles sont les dispositions prises par votre association, le CAPAN, le collectif des associations pastorales du Niger, en termes d'appui, conseil et assistance à ces éleveurs-là?
D'abord, nous avons des rencontres qu'on fait, les tribunes pastorales. Et récemment même, nous avons fait un atelier sur la gestion non violente du conflit. Vous savez, on fait face également à ces questions de conflit. Il faut en parler également.
Les éleveurs.
Entre agriculteurs et éleveurs. Ah. Par rapport au contrôle de ressources. N'est-ce pas? Actuellement, il y a des situations.
Les couloirs de passage,
les aires
les points d'eau,
les aires de pâturage en zone agricole. Il y a des cas dans la région d'État aujourd'hui où il y a ce problème qui est de plus en plus récurrent. Il y a l'autre problème d'accaparement des terres liées à des acteurs nouveaux, apparemment qui ont beaucoup d'argent. À côté de l'argent, ils ont peut-être beaucoup de soutien politique et ils pensent qu'ils peuvent s'approprier des aires de pâturage. Ou avoir
à eux seuls
pour leur propre compte au détriment de la masse. C'est des phénomènes nouveaux sur lesquels nous insurgeons, en tout cas, parce que les ressources naturelles sont des ressources partagées, n'est-ce pas? Les espaces partagés, les espaces pastoraux, c'est des espaces qui permettent à tous ceux qui pratiquent l'élevage, pas seulement les éleveurs mobiles, les gens du village, ils ont des animaux, pour qu'ils puissent y profiter. Mais quand cette aire de pâturage disparaît, ou ces couloirs de passage disparaît, c'est pour encourager les conflits ruraux.
Oui, conflits ruraux, Alhaji Al-Mansour Mohamed, quelles sont les dispositions prises par votre collectif pour éviter ou minimiser d'éventuels conflits entre agriculteurs et éleveurs, par exemple?
Nous, ce que nous faisons de plaidoyer, récemment, on a fait un atelier pour nos acteurs, pour nos responsables, sur la gestion non violente du conflit et la prévention du conflit avec l'appui du PRAPS. Le PRAPS, c'est un projet régional, en tout cas sur l'élevage, le pastoralisme qui s'intéresse quand même à la sécurisation des systèmes pastoraux, n'est-ce pas? Parce que les systèmes pastoraux, quand ils ne sont pas sécurisés, on ne pourra pas pratiquer l'élevage mobile, on ne pourra pas pratiquer le pastoralisme. Et il faut nécessairement... surtout en zone agricole, j'insiste, en zone agricole, que les aires de pâturage, que les couloirs de pâturage soient sécurisés pour les biens communs.
Les pasteurs et autres éleveurs nigériens sont aussi confrontés à des problèmes liés à la transhumance transfrontalière. Est-ce que de temps en temps, ils vous saisissent au sujet de cette problématique?
Vous savez, quand vous faites un peu l'analyse de la situation sécuritaire en lien avec la criminalité transnationale organisée, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, la transhumance vers les pays côtiers constitue une problématique et un danger même pour nos éleveurs. J'ai suivi un des ministres d'un de ces pays aujourd'hui, ce matin, à CRFI, parler de ces questions-là. Nous ne nous encourageons pas, en tout cas, les éleveurs pasteurs à se rendre dans certaines zones, dans certains pays frontaliers. Parce que il y a ces questions de tourisme, il y a cette question de stigmatisation, où on pense que l'éleveur pasteur a un lien fort avec le terrorisme, n'est-ce pas? Je pense que c'est un risque pour nos éleveurs de s'aventurer dans des zones, dans les pays côtiers. Ce qu'il faut faire, la lutte qu'il faut faire au Niger, c'est de sécuriser les espaces pastoraux que nous avons. C'est de développer la culture fourragère, puisque nous avons des grands espaces.
Sur place, ici,
sur place, au lieu d'aller, même les engrais dont il parle là, au lieu d'aller commander des engrais, pourquoi ne pas les avoir sur place? Nous avons des matières premières.
C'est possible, hein, de le faire.
Mais
ici,
c'est possible, même le ciment qu'on importe, le ciment, nous avons la matière première, même le monsieur dont il parle là. Il utilise notre matière première.
Merci beaucoup, Elhaji Al-Mansour Mohamed. Nous allons aller vers monsieur le directeur général de l'agriculture au ministère de l'agriculture, Yacouba Bouda. Le Niger fait partie des pays qui subissent de plein fouet les conséquences du changement climatique. Vous l'avez rappelé tout de suite dans vos interventions. Comment y faire face ou comment s'adapter aux effets des aléas climatiques ici au Niger?
Merci encore une fois de plus que vous m'avez donné la chance, même si toutefois, j'ai visé un peu citer un certain nombre d'actions d'adaptation au changement climatique que le Niger est en train de faire face, et surtout le secteur agricole. Vous savez, le changement climatique, il y a fait quoi? D'abord, il y a un certain nombre de rétrécissements de la zone favorable à l'agriculture, c'est-à-dire la bande se rétrécit avec l'avancée du désert. et aussi avec les besoins très cruciaux, les besoins très très croissants en terre avec l'accroissement de la population, et qui fait qu'il y a un besoin d'intensification de l'agriculture. Intensifier, ça veut dire quoi? Chercher les intrants qui s'adaptent aux conditions du changement climatique, comme les semences améliorées à haut rendement, qui résistent aux infestations et à la sécheresse. Et ça, le Niger, déjà, on a déjà compris ça, c'est pour cela. Et chaque année, nous avons un programme aussi de produire des semences et aussi homologuer des variétés qui s'adaptent au changement climatique. Ça, c'est un aspect très, très important. Deuxième aspect, un autre aspect très, très fort pour s'adapter. On a compris que l'agriculture pluviale est encore. Dépend du caprice du changement climatique, que maintenant la priorité est en train d'être donnée à l'agriculture sous irrigation. Nous sommes en train d'aller à des vastes programmes avec les partenaires qui accompagnent le pays dans sa politique, parce que nous avons suffisamment de ressources. Nous avons la population qui est jeune à plus de 65%, et pas plus de 25 ans. Et nous avons la terre disponible, et nous avons le Niger ici dans la zone sahélienne, c'est le Niger qui a la plus grande réserve d'eau, de l'eau souterraine, et c'est facilement mobilisable. Donc tous ces aspects-là sont compris, nous sommes en train d'aller à une politique de production sur l'irrigation de 24 mois sur 24 sur le maraîchage, presque dans tous les villages agricoles. Ça, c'est des programmes que nous sommes en train de vouloir réaliser avec les partenaires qui ont compris et qui nous accompagnent, par exemple, la Banque mondiale et qui siège encore. Nous avons vraiment des programmes qui sont intéressés. Il y a un programme que nous sommes en train de vouloir finaliser et le rendre même opérationnel d'ici la fin de l'année, c'est le programme du développement de l'irrigation et de l'intensification de la production animale, le financement de la Banque mondiale et bien d'autres. Donc vous avez compris que la question d'adaptation au changement climatique est déjà vue, et nous avons même des plans d'adaptation qui sont élaborés et au niveau national, au niveau du ministère de l'Environnement. Donc c'est tout un tas d'actions que nous sommes en train de vouloir et entreprendre pour s'adapter, faire adapter notre secteur au changement climatique.
Monsieur le directeur général de l'agriculture à présent, quels sont vos conseils, recommandations pour une meilleure campagne agro-silvopastorale 2023 au Niger?
Comme d'habitude, nous avons l'habitude de le faire. Et vous savez, il y a un certain nombre d'investissements que l'État est en train de faire pour faire des prévisions météorologiques. Donc, c'est quoi? C'est très important. Aujourd'hui, ces informations sont disponibles à travers plusieurs canaux, que de temps à autre, il y a des bulletins qui sortent où on informe les zones d'occurrence des précipitations, et que ces producteurs-là doivent utiliser ces informations-là. Ça peut beaucoup les aider dans leur calendrier culturel pour leur permettre quelle est la période la plus favorable pour utiliser leur semence, et quelle est la période où ils pensent qu'ils doivent prendre des dispositions pour ne pas s'immer. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est un aspect très, très important que nous voulons que nos producteurs et les pasteurs puissent utiliser ces informations météorologiques, parce que nous avons souligné en amont que le changement climatique, c'est une réalité que nous sommes en train de vivre. Donc, on n'a pas d'autre solution que de chercher à s'adapter, parce que c'est des situations qui sont là et qui sont inévitables. Ça, c'est un aspect très, très important. Maintenant, aussi, les choix des semences et des entrants. Nous avons un certain... Le secteur aujourd'hui est libéralisé, celui des semences. Nous avons dans plusieurs localités, dans presque toutes les régions, des promoteurs qui sont des promoteurs des entreprises qui sont vraiment très avancées dans la production, la multiplication et aussi la vente. Ils ont fait des points de vente de semences qui s'adaptent au niveau de chaque région. Nous avons des agents au niveau de presque beaucoup de communes d'intervention auprès de qui ils peuvent prendre des conseils pour chercher à prendre des semences améliorées qui s'adaptent à leurs conditions, pour éviter d'aller faire de le hasard et aller à l'agriculture de que nous avons toujours appelé agriculture de précision, parce que cette situation du changement climatique nous impose à aller à l'agriculture de précision, c'est-à-dire à quel type de terrain, à quelle zone et quel type d'engrais ou bien de semences il faut utiliser dans un certain nombre de cas. Voilà un peu ce que je voulais dire.
Merci beaucoup, merci infiniment, monsieur le directeur général de l'agriculture au ministère de l'agriculture. Moussa Lignali, les conflits fonciers et les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont les plus récurrents en cette période. Comment les éviter?
Merci beaucoup. Donc, le mieux de les éviter, c'est à travers le cadre de concertation entre agriculteurs et éleveurs, ce que nous appelons dans le jargon l'escapru. Parce que y a un slogan d'une de nos structures qui résume tout. Désormais, rien pour nous sans nous. Donc, quand les acteurs impliqués sont réunis entre eux, ils peuvent toujours avoir des solutions pérennes plutôt que des solutions imposées. Parce que qu'est-ce que j'appelle solution imposée? Quelqu'un réfléchit quelque part pour venir dire bon, faites ça, faites ça. Les acteurs concernés par cette problématique, à travers les à savoir les agriculteurs et les éleveurs, quand vous les associez et vous les laissez dialoguer entre eux, c'est la meilleure de ceux. Parce que déjà, ça permet d'apaiser les tensions, ça permet une sorte de confiance entre eux. Ils vont s'écouter, ils vont se comprendre parce que il y a des préjugés de foi. Il y a des préjugés. Quand je vois l'agriculteur en tant qu'éleveur, peut-être, bon, je dis que c'est un compétiteur. Alors que quand ils discutent entre eux, ils s'engagent sur un certain nombre de principes et eux-mêmes, ils vont mettre des garde-fous pour le respect des engagements donc pris. Et sans que quelqu'un ne vienne de l'extérieur monitorer ce qu'ils sont en train de faire, vraiment, les solutions à la base sont les meilleures. Donc, encourager la mise en place donc de ces cadres de concertation, parce qu'au niveau de la Fédération Mouribane, tout comme au niveau donc des autres structures membres de la plateforme, il y a ces cadres de concertation qui sont mis en place et qui sont animés au niveau donc des communes. Mais cela a un coût. Généralement, nous sommes accompagnés par des projets, par des programmes. Donc, à la fin de ces projets, les ressources ne suivent pas. Donc,
Moussa Lignali, en cas de retard de semis dans une localité donnée, quel conseil auriez-vous à donner aux populations de cette localité?
Le retard, en fait, quand vous voyez très bien, le retard en tant que tel n'existe jamais. Parce que comme a dit le directeur, il y a des semis, il y a des multiplicateurs donc de semences. Ce qu'il faut, c'est une vulgarisation au niveau donc du monde rural, quoi. Si vous êtes en retard par rapport à telle spéculation, changez pour aller vers une autre spéculation. De sorte que quand vous récoltez, vous pouvez vendre cette spéculation pour payer avec un autre producteur ce que vous n'avez pas eu la chance donc de produire. Voilà un peu comment on va résoudre ce problème-là, quoi. Tant qu'il y a un retard, pour que le mil arrive à maturité. Il y a des variétés de mil, par exemple le mil Shakti. Mm-hmm. C'est une variété où à 45-50 jours, vous êtes à maturité.
Oui, mais est-ce que les paysans sont conscients
de... Ils sont conscients de ça, parce que quand les acteurs à la base sont mis au devant, il y a beaucoup de choses. On a des multiplicateurs, on a des producteurs pilotes qui font le mil même en irrigué. Donc c'est des technologies, et on vend-il ça. Il y a au niveau donc des chambres régionales d'agriculture, il y a des plateformes de WhatsApp à travers lesquelles les paysans arrivent à échanger entre eux. Donc vraiment, si vous pensez que vous êtes en retard par rapport à telle spéculation, changez pour aller à une autre spéculation qui a un cycle court et vous n'allez pas perdre la saison.
Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum d'Issidio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir au téléphone Yacouba Bouda, directeur général de l'agriculture au ministère de l'agriculture, Moussa Alignali de l'association Mouribane, membre de la plateforme paysanne, et Elhaj El Mansour Mohamed, secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger, CAPAN. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme d'Issidio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 52 radios et 6 télévisions partenaires. Merci à la technique côté son assurée par Amina Hassan et à la réalisation Seini Issaka. Merci, au revoir.